pas très loin de Sedan. Déjà aussi, dans presque tous les villages alentours, des femmes de tous âges avaient pris les habits de deuil, que beaucoup ne quitteraient plus jamais. Et encore, heureusement qu'on ne savait pas que ce serait si long, si terrible, pensa Marthe en commençant une nouvelle pelote. Si on avait deviné, peut-être bien qu'on n'aurait pas tenu, pas survécu. Et peut-être aussi que les hommes, les soldats auraient protesté et tout fait pour que cesse cette folie, ce carnage. Au lieu de ça, il y a 871 jours que Jean est parti et que je n'en peux plus d'attendre et d'avoir peur. Mais j'ai tort de penser à ça, se reprocha-t-elle, très consciente de se laisser glisser sur une insidieuse pente, celle du désespoir. Elle s'étira, puis se pencha vers le feu. Il était maintenant assoupi sous une couche de cendres, d'où fusaient parfois, ultime résistance des brandons en fin de combustion, quelques crépitantes étincelles. Là, contre la plaque de cheminée encore chaude, était posée la cafetière d'émail, au flanc brun, dans laquelle tiédissait la tisane. Un mélange de chicorée et de café confectionné dès le matin et sur lequel, au cours du jour, il suffisait de verser deux louches d'eau bouillante pour obtenir une boisson peu excitante, une repasse, comme on disait dans le pays. Elle s'en versa un demi-verre, sucra, but de gorgée. Enfin, avec les premiers battages, on ne s'en est pas trop mal sorti, pensa-t-elle pour s'efforcer de chasser les trop sombres idées qui la guettaient. Oui, bien sorti même, et toutes ensemble. C'était vrai. Grâce aux femmes, la batteuse et la locomobile du père Tessandier avaient pu être mises en marche dans toutes les fermes, et le pain de l'année avait été assuré. Mais, cela fait, était arrivé le temps des labours. Ils étaient indispensables, car d'eux dépendaient les semailles, donc la vie de toutes les fermes. Puisque les hommes n'étaient toujours pas de retour, Marthe, comme tant d'autres, avait dû s'atteler à la tâche. Mais c'est le cœur plein de tristesse qu'après avoir charroyé et étalé le fumier, elle avait étrenné le Brabant, un engin tout neuf, dont les socs et les versoirs étaient encore luisants de graisse. Un outil qu'elle n'aurait jamais dû avoir à manier, tellement Jean se faisait un plaisir de l'essayer, et surtout tellement il était lourd. Ah, ce Brabant double, en avait-il rêvé l'un et l'autre? Jusqu'en ce début d'année 14, pour retourner les terres de la propriété, Jean s'était servi d'une très vieille charrue de Dombasle, un engin de plus en plus brinque-ballant, périodiquement remis en état par les charrons successifs de Costeblanc. Le dernier, Victor Delbos, avait prévenu Jean que les versoirs étaient au comble de l'usure et que les socs, tant de fois rechargés, risquaient maintenant de se casser sur le premier nez de rocher venu. « Ton grand-père, mon pauvre père, l'avait acheté l'année de son mariage !» lui avait jadis dit Octavine. « Et moi, en plus de mon trousseau, car je ne suis pas arrivé sans rien, moi, en plus de mon trousseau complet d'un hectare de très bonne terre, je suis venu avec cette charrue !» Aussi, Octavine avait-elle protesté avec toute la mauvaise foi dont elle était capable quand elle avait appris que son fils se préparait à faire une infidélité à cette Dombasle quasi historique.
« Je te dis que Victor se fout de toi » gronda-t-elle. « Attends un peu que j'aille le voir. Il va m'entendre, le Victor. Et c'est pas parce qu'il est maire que je vais me priver de lui dire ce que je pense. »«
Laisse-le donc tranquille, » dit Jean. « Il n'y est pour rien. »
« Tiens donc, c'est juste parce qu'il veut te vendre ce ce je ne sais comment tu l'appelles, qu'il t'a fait croire que notre charrue était trop usée pour être réparée. »
« Mais non, elle est foutue, elle a fait plus que son temps. »
Mais il en fallait plus pour convaincre Octavine.
« Et moi, je suis sûr que Victor t'a embobiné, »
insista-t-elle.
« Il n'a rien à voir dans cette histoire. Je n'ai pas acheté le Brabant chez lui, d'ailleurs il n'en vend pas. »
« Quoi? Tu l'as déjà acheté sans me prévenir? Quand? Où ?»«
Il y a 8 jours à Brive, à la foire de la Saint-Jean. »
« Et tu ne m'en as rien dit? Ah ça par exemple. Et vous? Vous le saviez bien sûr. »
lança Octavine à sa belle-fille. Bien entendu que Marthe le savait. Elle était avec moi quand j'ai fait l'affaire. Même que grâce à elle qui a discuté, le vendeur m'a rabattu le prix du transport jusqu'à Noailles. Le Brabant sera après-demain à la gare. Je n'aurai plus qu'à aller le chercher.
Bon, fais-en à ta tête, mais tu le regretteras d'avoir dépensé tes sous pour rien.
Mais comprends donc, bon sang, pour nos nouvelles terres, j'ai besoin d'un outil qui me fasse de beaux labours, profonds, réguliers. Elle mérite ça.
Car s'il était exact que la Dombasle était à bout de course, ce qui avait aussi décidé Jean et Marthe à investir dans l'achat d'un Brabant double, c'était l'acquisition de terrains qu'ils avaient faite au début de l'année. 2 hectares répartis en 5 lots qui touchaient tous aux parcelles des Combettes et que Jean se réjouissait d'emblaver dès l'automne venu. Parce qu'il savait que les champs étaient de bonnes mais lourdes terres, difficiles à retourner, il s'était trouvé dans la quasi-obligation d'acheter une charrue moderne, un Brabant double. Un merveilleux et révolutionnaire engin qui, grâce à son âge chargé de 2 socs et versoirs en opposition, permettait de magnifiques et profonds labours à plat. L'ensemble était plus lourd que l'antique Dombasle, mais Jean était fort et le maniement de l'outil ne l'inquiétait pas, bien au contraire. Tel n'était pas le cas de Marthe lorsqu'elle décida que le temps des labours était venu.
Vous êtes plus têtu qu'une bourrique, hein? Je suis sûr que vous n'y arriverez pas,
prévint Octavine, lorsqu'au matin du 18 octobre, Marthe lui demanda de l'aider à atteler la charrue. Elle savait qu'il était temps de commencer les labours, car la terre, bien assouplie par quelques grosses pluies, était désormais apte à recevoir le soc. Aussi, aidée par sa belle-mère, elle venait de lier les 2 vaches de travail, la mignonne et la gaillarde, mais hésitait pour fixer la chaîne du joug au régulateur de traction.
« Et alors, comment allez-vous vous y prendre maintenant ?»
ironisa Octavine avec un mauvais sourire, car l'embarras de sa belle-fille ne lui avait pas échappé.
« Faites reculer les bêtes !» demanda Marthe en feignant de ne pas entendre les réflexions.
« Voilà, c'est bon !»
dit-elle après avoir réussi à glisser le crochet d'attelage à sa place.
« C'est pas pour ça que vous allez y arriver !»
assura Octavine.
« Allons, dételez-moi cet engin de malheur et allons chercher la Dombasle. Elle, au moins, vous pourrez la tenir et la guider. Ce n'est pas comme cette mécanique qui est beaucoup trop lourde pour vous et que vous ne connaissez pas. Prenons la Dombasle et je vous ferai voir, moi, comment on laboure. »
« Non ! On a payé ce Brabant assez cher pour qu'il serve maintenant à quelque chose. Allons-y, on devrait déjà être au travail. » « J'ai dit que je labourerais avec cet engin et je vais le faire. »«
Petit entêté !»«
Parfaitement !»
approuva Marthe en empoignant les poignées de relevage et en levant la charrue pour éviter que le soc ne racle le chemin qui conduisait au champ.
« Dieu, que c'est lourd !»
pensa-t-elle en s'efforçant de ne pas grimacer, de cacher l'effort qu'elle faisait, tant elle sentait sur elle le regard de sa belle-mère.
Il ne faut surtout pas que je lui donne le plaisir de me voir en difficulté. Elle n'attend que ça,
se dit-elle en serrant les dents. Mais déjà les muscles de son dos et de son ventre protestaient, et ses bras tremblaient.
Allons, ne soyez pas stupide, ma pauvre petite. Lâchez ça, vous allez prendre du mal. Vous voyez bien que vous n'en pouvez déjà plus. Vous transpirez pire qu'un boudin dans la poêle.
lâcha Octavine quand elles arrivèrent enfin.